Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va vraiment passer dans le vif du sujet ce matin en abordant un sujet assez important pour nos vies qui est le bonheur. Le bonheur. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quelques années de cela, l'auteur, compositeur, interprète français Christophe Maé inondait le paysage musical francophone de la chanson intitulée « Il est où le bonheur? » Il est où? Il est où? Ça vous dit quelque chose? Hein, on entendait ça, évidemment, sur les ondes radio, et ça l'a beaucoup roulé, ce tube-là. Et évidemment, il s'agit d'une question existentielle très importante. Une question qui vaut son pesant d'or. Une question qu'à peu près tout le monde se pose, que ce soit l'enfant dans une cour de récréation, que ce soit l'ado qui attend son autobus en se posant mille et une questions sur la vie, que ce soit l'homme ou la femme qui trime dur pour boucler la fin de mois, tout le monde sur la planète se pose cette sempiternelle question, il est où le bonheur? Il est où? Dernièrement, j'entendais quelqu'un y aller de la déclaration suivante au sujet du bonheur, et elle disait à la personne, le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand on en veut, ben on s'en fait. Le problème avec ce dicton, c'est qu'il n'y a pas deux recettes qui se ressemblent. Il y a des gens qui vont rajouter des pacanes à leur sucre à la crème, d'autres des noix, d'autres du sirop d'érable. Il y en a qui vont mettre un peu plus ou un peu moins de cassonade ou de beurre. Bref, chacun a son petit ingrédient secret. Bien souvent dans le monde, on peut s'apercevoir que beaucoup de gens ont cette tendance à définir le bonheur de cette manière-là. Chacun a son petit secret pour se construire son propre bonheur, pour parvenir à la voie où est-ce qu'ils vont être vraiment heureux. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Dieu pense lui-même de tout cela? Quelle est la proposition du bonheur que Dieu désire que l'on puisse définir nos vies? Quel est le chemin sur lequel Dieu veut nous diriger vers le bonheur? Premièrement, est-ce que Dieu veut notre bonheur? Et s'il le veut, comment puis-je y parvenir? Eh bien, c'est ce que j'aimerais examiner avec vous ce matin. À travers le livre des Proverbes. Mais juste avant, je vais inviter mon frère Danny à bien vouloir s'avancer et nous lire une partie du Proverbe chapitre 3 entre les versets 13 à 18. Alors Danny, si tu veux bien t'avancer, merci mon frère.
Merci Miguel, bon matin à tous. Alors comme Miguel nous l'a mentionné, la lecture de ce matin va être dans le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 13 à 18 dans la nouvelle édition de Genève. Donc Proverbes chapitre 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen.
Merci, Dani. Alors, le texte qu'on vient de nous lire ici nous indique le fait que le bonheur, c'est quelque chose de très précieux, quelque chose qui a une grande valeur et qui trouve son appui sur deux grands piliers, la sagesse et l'intelligence. Mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par ces deux termes-là? Eh bien, pour bien des gens, le bonheur, c'est un état de joie qui est souvent associé à ce qui est cher à notre cœur, qui a du prix à nos yeux. Le bonheur, c'est quelque chose qui concerne bien souvent dans notre vie de tous les jours, qui concerne notre vie de famille, notre carrière, nos accomplissements personnels ou même la réussite de nos rêves. Pourtant, lorsqu'on regarde de près le livre des Proverbes, on s'aperçoit rapidement que le vrai bonheur est une question qui est beaucoup plus large que notre propre et petite personne. En fait, on s'aperçoit que le bonheur, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus la personne de Dieu que moi-même. C'est intéressant, cette ligne de pensée-là, elle est très, très, très importante dans le livre des Proverbes. Et ce qu'on voit à ce sujet, c'est que Dieu, d'une certaine manière, désire notre bonheur et que si on veut le trouver, eh bien, ce bonheur tourne autour, dans le livre des Proverbes, autour de trois axes bien précis que je vais nommer ce matin les trois C. Donc, le bonheur tourne autour de trois dimensions de nos vies, soit notre cœur, notre connaissance et notre caractère. Ce sont les trois dimensions auxquelles Dieu désire que nous puissions nager dans le bonheur en sa compagnie. Donc, sans plus tarder, on va juste être guidés ensemble. Qu'est-ce que le livre des Proverbes nous dit au sujet du bonheur? Donc, le bonheur, premièrement, c'est une affaire de cœur. Le cœur, bien souvent dans nos sociétés occidentales, c'est associé à des choses très précises dans notre vie. Le cœur est souvent associé à des émotions, à notre volonté ou à des sentiments. Par exemple, on va parler de quelqu'un qui a du cœur au ventre. On va parler de quelqu'un qui a du cœur à l'ouvrage, ou encore quelqu'un qui a le cœur à la bonne place, ou encore quelqu'un qui a le cœur sur la main. Alors, ce sont toutes des dimensions où est-ce que ça s'associe soit à des sentiments ou à notre volonté, le fait de vouloir bien faire le travail que l'on fait. Pourtant, dans le livre des Proverbes, on voit que le cœur, c'est beaucoup plus large que le simple fait d'avoir des sentiments, des émotions ou une volonté. En fait, dans le livre des Proverbes, la question du cœur englobe non seulement nos sentiments, mais aussi notre intellect, aussi notre raison. Donc, dans le livre des Proverbes, avec notre cœur, on peut aussi bien s'émouvoir que ressentir les choses, mais on peut aussi réfléchir avec notre cœur, se motiver, faire des liens, analyser des situations ou même gérer des situations délicates. En fait, le cœur, dans le livre des Proverbes ou dans la pensée juive, c'est le centre même de notre existence humaine. Donc, ça comprend autant le fait de s'émouvoir devant quelque chose que de ressentir un sentiment, que de réfléchir à où est-ce que je vais passer mes vacances l'année prochaine. Donc, d'une certaine manière, ça englobe toute notre humanité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire le Proverbe au chapitre 4, verset 23, qui nous dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Bien, ce qu'on voit ici, c'est que les sources de la vie, autrement dit le bonheur, c'est un domaine qui est directement lié à l'état de notre cœur. Regardez par exemple ce que nous dit les proverbes à ce domaine-là concernant le cœur et le bonheur. Donc, je vais vous lire quelques proverbes avec les références, vous les avez juste à côté à l'écran. Alors, un proverbe nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Qu'est-ce qu'on peut constater ici dans ces versets? Eh bien que notre cœur, c'est-à-dire notre capacité de réfléchir, de ressentir, d'organiser ou même de gérer les éléments de notre vie a une incidence directe et capitale sur la qualité de notre bonheur. Lorsque ça, ce n'est pas le cas, lorsque notre bonheur n'est pas impliqué directement à notre cœur, eh bien, il s'agit d'un faux bonheur, d'une fausse joie. Regardez par exemple ce que nous dit le Proverbe 14 au verset 13. « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. » Ce qui est mis en valeur ici, c'est que le bonheur qui vient du cœur, c'est bien plus que des rires, c'est plus que de l'enthousiasme, c'est plus que du plaisir ou même de la joie. La joie qui vient, ou le bonheur qui vient du cœur, c'est une vie qui, peu importe les circonstances de nos vies, nous marque profondément. Comme le disait le regretté auteur québécois Serge Bouchard, ce qu'il y a parfois d'ennuyeux avec le bonheur, c'est qu'il ne nous immunise pas contre le malheur, ni contre le drame. Tout ce que le bonheur peut faire, c'est nous apprendre à composer avec les aléas de la vie sans que notre bonheur soit détruit pour autant. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui se vit exclusivement ou nécessairement dans un bref instant de magie ou d'excitation. Non, le bonheur peut très bien se vivre, mais je dirais même se vit, sans que tout ne tourne comme sur des roulettes. Le bonheur se vit dans les tourments, dans les aléas de la vie, je peux très bien vivre une période d'adversité, de tourment, tout en nageant dans le bonheur. C'est ce que nous dit le livre des Proverbes. Regardez par exemple ce que nous disent les deux proverbes suivants. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ce qui est mentionné ici, c'est que le bonheur qui vient du cœur, c'est un peu comme un médicament ou un festin capable de prendre soin de nous, même dans les périodes d'adversité. On peut alors même très bien nager dans le bonheur sans que, comme je le disais tout à l'heure, tout roule comme sur des roulettes. Bien sûr, il est officiel que notre cœur n'est pas le seul critère pour nous conduire au bonheur. Comme le disait lui-même Jésus dans l'Évangile de Marc, c'est de notre cœur, c'est du dedans que sortent les mauvaises pensées et tout ce qui peut souiller notre vie. Alors, si mon cœur est malade, comment est-ce qu'il peut me conduire au bonheur? Est-ce que je peux vraiment uniquement me confier sur lui, comme dit ici le livre des Proverbes, pour accéder à une sérénité, à une paix, à un bonheur vraiment véritable? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le livre des Proverbes, le bonheur ne dépend pas seulement, n'est pas seulement lié à mon cœur, mais lié également à ma connaissance. Le bonheur, c'est aussi une affaire de connaissance. Regardez par exemple ce que nous disent les deux proverbes suivants. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Qu'est-ce qui est significatif ici au sujet du bonheur? Qu'est-ce qu'on peut comprendre véritablement de l'impact ou de l'incidence du bonheur? Eh bien, que le bonheur, c'est un mode de vie qui repose sur une relation de confiance et de proximité avec la personne de Dieu. C'est là que je peux nourrir mon cœur d'une connaissance et d'une intelligence qui va par la suite pouvoir me conduire au bonheur. Évidemment, vous allez être d'accord avec moi, il existe toutes sortes de types d'intelligence. Par exemple, Il y a la fameuse intelligence qu'on appelle encyclopédique, celle qui a une mémoire phénoménale et qui a une bonne capacité d'apprendre des choses nouvelles. Il y a également l'intelligence conceptuelle, celle qui est capable de jongler avec des concepts abstraits et d'analyser des situations qui sont parfois complexes. Il y a l'intelligence manuelle, celle qui est capable de résoudre un problème mécanique en moins de deux puis de poser une armoire en criant ciseaux. Il y a l'intelligence émotionnelle ou relationnelle, celle qui est capable de faire preuve de doigté, de discernement, d'empathie. Il y a aussi l'intelligence du gros bon sens. C'est l'esprit lucide qui a une bonne expérience de la vie. Mais il y a souvent une intelligence à laquelle on ne pense pas. Et c'est celle-là dont nous parle le livre des Proverbes. C'est l'intelligence spirituelle. Celle qui demande de l'humilité. Celle qui demande de l'écoute. Celle qui demande également de la foi. Et une bonne dose de remise en question par rapport à qui je suis et qui est la personne de Dieu. C'est là l'intelligence dont nous parle le livre des Proverbes et dont mon cœur a absolument besoin pour connaître le vrai bonheur. Regardez par exemple ce que Jésus lui-même a dit dans une prière qu'il a adressée à son Père dans l'Évangile de Jean au chapitre 17. C'est Jésus qui parle et qui dit « Or la vie éternelle, autrement dit, le bonheur, c'est qu'ils te connaissent, toi. » Remarquez ici le mot, « qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. » Mes amis, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est dans une connaissance intime et expérimentée du Dieu qui peut tout voir, tout songer, tout faire, tout accomplir pour notre bien, un bien qui se dirige sans cesse vers l'image renversante du Dieu vivant qui est le nôtre. Ce n'est qu'à ses côtés, à côté de Dieu, que je peux goûter au bonheur qui émane de sa propre personne, un bonheur qui ne change pas malgré les tourments de la vie. Regardez par exemple ce que nous dit le Proverbe 15 au verset 16. mieux vaut peu, excusez-moi, je vais reprendre, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. On voit ici très bien l'aspect que dès que l'Éternel entre dans ma vie, qu'il fait partie de ma vie, qu'il prend part à mes décisions, à ma vie de famille, à ma profession, à ma vie d'église, à ma vie dans la communauté, dans la société, eh bien, j'ai accès à une ressource incroyable, beaucoup plus forte que n'importe quelle faculté ou don que je peux avoir pour être dirigé vers le bonheur. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, « Miguel, tu me parles ici d'une idée très théorique et très conceptuelle de Dieu. Pour moi, ça manque de chair autour de l'os, là, ça manque de moelle. Tu me parles de Dieu, mais il me semble que si Dieu vient dans ma vie, qui s'intéresse à moi, ça devrait produire quelque chose. Et parfois, je ne le vois pas, ça, chez les gens qui disent qu'ils ont Dieu dans leur vie. Je les regarde aller, puis ils sont aussi imparfaits que moi. Bien sûr, bien sûr. Si on ne fait que penser à Dieu de manière théorique, on devient ce qu'on appelle un pelleteux de nuages. Le bonheur que Dieu a en réserve pour l'humanité n'est pas fait pour les pelleteux de nuages. Il est fait pour les gens d'action qui ont les deux pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. C'est pour eux que le bonheur est fait et que Dieu a créé cette indicible joie à laquelle on peut avoir accès, mais jamais autrement que par lui. Donc, si on veut produire du fruit, ça touche un troisième domaine. Donc, le bonheur concerne, on a vu, notre cœur, notre connaissance, mais également notre caractère. Au Québec, lorsqu'on parle de quelqu'un qui a un bon caractère, on parle parfois, comme le dirait le grand chanteur Jerry Boulet, quelqu'un qui est capable de voir la vie avec les yeux du cœur. Hein, c'est quelqu'un qui a un bon caractère, c'est quelqu'un qui est capable de faire preuve d'empathie, de discernement, qui est patient, qui ne se laisse pas facilement influencer. C'est quelqu'un qui a de la bonté, qui a de la gentillesse, qui a de la courtoisie. C'est quelqu'un qui sait bien s'occuper des gens autour d'eux. Ce que ça nous dit, d'une certaine manière, c'est que même dans la société séculière, on voit que le bonheur, c'est souvent associé à des traits de caractère, c'est-à-dire notre manière de réagir, notre manière de se comporter et d'agir face au monde qui nous entoure et comment qu'on se comporte face à l'adversité. Bien sûr, les proverbes soutiennent clairement cette idée et de manière assez importante. Regardez par exemple les proverbes suivants qui nous parlent du caractère de celui qui est heureux ou qui a accès au bonheur. Donc, Proverbe 13, verset 21 nous dit « Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Celui qui dit au méchant, « Tu es juste », les peuples le maudissent, les nations le maudissent, mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Ce qu'on voit ici, c'est que le bonheur qui vient de Dieu se traduit par des gestes et un caractère qui honore qui? Qui honore lui-même, qui honore Dieu. Si j'ai un caractère qui n'honore pas Dieu, eh bien, je peux me poser des sérieuses questions sur le soi-disant bonheur dont je dis profiter. Nager dans le bonheur, c'est apprendre à voir le monde et les défis qui l'entourent comme Dieu lui-même les voit. Le bonheur, c'est donc quelque chose qui concerne beaucoup moins ma petite personne que la personne magnifique et souveraine de Dieu. Avant tout, c'est lui qui est concerné par la dimension du bonheur et non pas ma propre volonté ou mes propres désirs. C'est Dieu qui est à la fois l'auteur, la source, l'agent, l'origine du bonheur. C'est là le message des Proverbes. Le bonheur est lié à la personne de Dieu. Et cela entre évidemment en profonde contradiction avec l'idée générale que notre société se fait du bonheur. Pour bien des gens, Le bonheur, c'est une question de volonté. Vous avez déjà entendu le proverbe « quand on veut, on peut ». Si tu veux vraiment être heureux, bien, ça va arriver. Regardez ce que nous dit le proverbe suivant, au chapitre 16, verset 32. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Ce qu'on voit ici, c'est que le bonheur ou la réussite n'est pas associé à ma propre volonté ou à mon désir de réussir. Il est associé à mon caractère, ma manière de réagir face aux circonstances qui parfois me mettent des bâtons dans les roues. C'est ça qui va indiquer si le fait que le bonheur est dans ma vie, comment je réagis face au bonheur et non pas le simple fait de vouloir être heureux. Ce n'est pas à force de volonté qu'on devient heureux. Je dirais que c'est au contraire, c'est à force d'humilité qu'on devient heureux, à force de voir la vie comme Dieu lui-même la voit. C'est une question, évidemment, qui s'adresse fondamentalement, excusez-moi l'expression, mais à nos tripes. Le bonheur, c'est quelque chose qui est fondamental lorsque l'adversité se montre le bout du nez. C'est quelque chose qui s'adresse directement à ce qui coule dans nos veines, à ce qui coule dans notre sang. Quels sont les désirs, les motifs, mes ambitions? Quelle est mon attitude face au bâton que je peux parfois rencontrer et qui m'empêche de réaliser tel objectif? C'est à cela que concerne le bonheur. Si Dieu n'est pas au centre de mon bonheur, eh bien, je cours à ma perte. Si Dieu n'est pas au centre de mon bonheur, je cours à ma perte. Pourquoi? Eh bien, parce que l'être humain n'est pas digne de confiance. Nous avons tous le pouvoir et le potentiel en tant qu'être humain de faire des mauvais choix. Vous êtes d'accord avec moi? On a tous le potentiel de se tromper. On a tous le potentiel de semer autour de nous la misère, la discorde, le trouble. Même si c'est inconsciemment, on crée des ravages autour de nous. Lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes, l'être humain n'a pas le potentiel d'atteindre le vrai bonheur. Ce n'est pas dans ses cordes à l'homme et à la femme, d'atteindre le bonheur par lui-même. Nous ne sommes pas les acteurs de notre bonheur. Ce rôle appartient à Dieu. Regardez ce que nous dit le proverbe au verset 18 du chapitre 29. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Ce qu'on voit ici, c'est que si le bonheur est une construction qui est liée à mes efforts, à ma volonté, je me retrouve dans une bien triste position. Je me retrouve dans un rôle qui ne me convient pas du tout, un rôle qui est d'être l'acteur de mon propre bonheur. Mais ce rôle-là ne m'appartient pas. Ce rôle-là appartient uniquement à Dieu, heureusement. C'est lui qui peut changer mon cœur, c'est lui qui peut changer ma connaissance, c'est lui qui peut changer mon caractère. Évidemment, il est sûr et certain que dans notre monde, il existe toutes sortes de plaisirs et de petites joies. Je vous raconte une petite tranche de vie à ce sujet. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un mordu du foot. Et ce qui est le fun à l'Église de l'Espoir, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs de foot. Il y en a plusieurs de différentes origines. Puis j'aime bien le matin discuter tout ça. Puis un des hommes avec qui j'aime bien discuter de foot, c'est Simon-Pierre. Fait que Simon-Pierre, c'est ça la surprise que je te réservais. Et ce qui est intéressant, c'est que mon club préféré affronte souvent le club préféré de Simon-Pierre. Et l'année passée, ça n'a pas très bien été pour mon club. Trois défaites en trois matchs, dont deux assez cinglantes. J'ai été félicité, Simon, du coup, bravo, c'était fantastique. Son équipe a connu une saison incroyable, exceptionnelle. Mais, il y a deux semaines de ça, tout début de la nouvelle saison de la Ligue anglaise de foot, mon club préféré a eu le dessus sur celui de Simon-Pierre pour gagner le premier trophée de l'année. ça m'a vraiment fait un velours. Ça m'a vraiment fait un velours. Une petite joie que j'ai exprimée au grand malheur de ma petite fille de 7 ans, d'un élan vocal assez vif et ostentatoire, disons. Ma petite fille est simplement, « Mais papa, tu cries beaucoup trop fort! » Oui, mais t'as pas idée de ce que ça représente pour papa après 3 défaites humiliantes que d'avoir une victoire aussi exceptionnelle. Alors, désolé pour City, mon cher ami. Malgré la victoire d'hier, bien, il y a 2 semaines, c'est encore Arsenal qui est parti avec le trophée. Alors, ça a été pour moi un bonheur. C'était un bonheur. La vie m'a apporté ce bonheur-là de voir mon équipe remporter ce match. Mais à quoi est-ce que je pourrais comparer cette petite joie face à l'immense bonheur que je peux savourer au travers de l'Évangile de Jésus-Christ? Eh bien, voici une petite illustration qui peut peut-être vous aider à comprendre la différence entre les deux bonheurs. Alors, évidemment, c'est une image imparfaite, mais dans l'univers du ballon gonflable, il y a 2 grandes manières de gonfler les ballons. Avec de l'air, tout simplement, ou avec de l'hélium. Évidemment, les ballons gonflés à l'hélium sont très différents de ceux gonflés à l'air. Les ballons gonflés à l'hélium ont premièrement une durée de vie beaucoup plus courte. Ils coûtent également beaucoup plus cher, c'est plus dispendieux. C'est plus dispendieux de remplir mon ballon d'hélium que de simplement souffler dedans. Également, les ballons à l'hélium peuvent voler. Les ballons à l'air, ils ne volent pas. Ils se taillent, ils gardent un état assez stationnaire. Un ballon à l'hélium, ça s'envole. Et l'hélium, également un gaz, vous l'aurez probablement déjà remarqué, qui peut avoir une influence sur notre corps, notre main, notre voix. Respirer de l'hélium, vous allez voir ce que ça va donner. Ça modifie non seulement notre voix, mais ça peut causer des maux de tête, des étourdissements, des nausées et même parfois des pertes de connaissances. Les bonheurs de ce monde, comme la victoire d'Arsenal sur le City, est comparable à un ballon gonflé à l'hélium. C'est un plaisir à porter qui ne dure qu'un temps. Ça finit par passer. De plus, cette victoire-là, parfois, bien, ces plaisirs-là, ils peuvent nous coûter cher. Et puis, au bout du compte, ils finissent par s'envoler. Puis ces plaisirs-là que le monde nous apporte, c'est un peu comme des paradis artificiels, dans le sens qu'ils ont le potentiel de nous couper amèrement de la réalité qui nous entoure, c'est-à-dire que ça peut être néfaste pour notre santé. Le bonheur de l'Évangile, lui, est comparable à un ballon gonflé à l'air. Premièrement, sa durabilité est beaucoup plus longue. Pourquoi? Parce que son contexte, le bonheur n'est pas lié aux circonstances, mais à la manière dont je vais réagir face aux circonstances. De plus, ce bonheur est bien meilleur marché que le ballon gonflé à l'hélium. Pourquoi? Parce qu'il est fondé sur la grâce de Jésus. Je n'ai pas besoin de rien donner, de rien payer pour avoir ce bonheur. Jésus a tout payé. Un prix absolument incroyable en donnant sa vie pour que je puisse avoir accès à un bonheur qui m'est offert gratuitement et que je puisse le savourer pleinement. Également, le bonheur de l'Évangile n'a pas le potentiel de s'envoler et de quitter ma vie. Il ne s'envolera pas à cause de sa légèreté, mais il va demeurer fidèle comme le roc qu'est Jésus. Et finalement, le bonheur de l'Évangile ne nous coupe pas de la réalité. Bien au contraire, il nous transforme. Il nous aide à faire face à la vie et même la changer positivement quand on veut. Avec quoi le ballon de ton bonheur est-il gonflé aujourd'hui? Avec de l'hélium ou avec de l'air? Vous savez à quoi me fait penser un ballon gonflé à l'hélium? Ça me fait penser à la fameuse chanson du poète Félix Leclerc, « Le petit bonheur ». Vous connaissez la chanson? Alors, peut-être que les jeunes générations la connaissent moins, là. Vous irez voir ça sur YouTube cet après-midi. Je vous donne ça comme leçon. Allez voir la chanson « Le petit bonheur » de Félix Leclerc. Alors, dans la chanson, on parle d'un petit bonheur. Ce petit bonheur, on le croit tendre et soumis, mais à l'usure, il finit par nous quitter et partir sans nous donner la main. On a beau le supplier, le cajoler, lui faire une scène, lui montrer le grand trou qu'il nous fait au fond du cœur, le petit bonheur s'en va toujours, la tête haute, sans joie, sans peine, et il nous quitte comme s'il ne pouvait plus voir le soleil en notre demeure. Tout ce qu'il nous reste à faire, dit alors Félix, c'est de reprendre notre bâton de vie, ainsi que nos guenilles, et de battre le sommeil dans le pays des malheureux. Voilà à quoi nous mène le petit bonheur. Voilà à quoi nous mène le bonheur qui gonflit à l'hélium, celui qui ne provient pas du souffle vivant de Dieu. Le seul bonheur qui est durable, pur et sans tache, c'est Dieu qui nous l'offre en la personne de son Fils. En lui, en Jésus, nous avons la possibilité de savourer un état de grâce incomparable, même dans le désert parfois cruel de la vie. Même si je suis troublé, affecté moralement, le bonheur de Dieu ne change jamais. Ne laissons pas notre cœur se laisser impressionner ou même berner par les attraits parfois si trompeurs de notre monde. Ne te laisse pas tromper, Miguel, par la victoire si facile d'Arsenal. Regarde vers un bonheur beaucoup plus grand, moins artificiel, moins décevant. Laisse ton Dieu vivre en toi par son esprit une expérience exaltante qui va te bouleverser et qui va raffermir ton pas. Vous savez, les amis, c'est dans les cordes de Dieu que de pouvoir vous mener au bonheur auquel il veut vous inviter. Alors, quand je pose la question, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Eh bien, j'aimerais simplement terminer en vous lisant une portion de la première épître de Jean, au chapitre 5. Pendant que je vais lire, je vais inviter l'équipe de louange à bien vouloir s'avancer. Alors, je vous lis le texte, 1 Jean, chapitre 5, versets 10 à 13. « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'a pas le bonheur. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous avez le bonheur, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Mes amis, nous sommes ici devant la clé suprême du bonheur de votre vie. Non pas un bonheur qui concerne notre carrière, notre vie de famille, notre réussite, nos finances. Le bonheur n'a rien à voir en tant que tel avec moi-même. Le bonheur, le vrai bonheur, est intimement lié non pas à ma personne, mais plutôt à celle de Dieu et de son Fils. C'est de là que coule la sève vivifiante et spirituelle du bonheur, celui dont le ballon est gonflé par la puissance et la vie qui résident dans l'Évangile de Jésus-Christ. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, nous voulons te remercier ce matin, te rendre gloire, te rendre honneur, te rendre grâce pour ce cadeau absolument magnifique, cette grâce que tu nous tends à travers la personne de ton Fils. C'est vers lui, Seigneur, que nous pouvons trouver un sens à notre vie, un sens à notre bonheur, qui quitte les sphères de notre petite personne, de notre petite vie parfois si misérable, pour être capable de s'abreuver et se remplir de l'Esprit Saint que tu donnes à travers ton Fils, que tu donnes à travers ta croix, à travers la résurrection de Jésus. Seigneur, apprends-nous, en tant que disciples, à complètement se laisser envahir par toi, par le bonheur que tu nous offres. Merci pour toutes choses.